du désir de ne pas se voiler la face. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre condition telle qu'elle est. Alors que faire? Est-ce qu'on va se lamenter? Ah, si seulement nous étions immortels, si seulement nous étions incorruptibles, c'est-à-dire finalement non susceptibles de souffrance comme les dieux. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Le projet du discours épicurien, c'est d'arriver à proposer quelque chose comme une thérapie, comme une médecine, une forme de pharmacopée qui va essayer de soulager cette souffrance et de proposer aux êtres humains quelque chose de meilleur.
Mais de quel médicament est faite une telle pharmacopée? Quelle est l'ordonnance du docteur Épicure? Puisque Épicure, là encore, contrairement à l'idée reçue qu'on se fait à son sujet, ne cesse de montrer l'inanité de la richesse, des honneurs, voire même des savoirs. Qu'en est-il alors? Quels sont les remèdes? Quels sont les médicaments?
Alors le médicament...
Ou les médicaments peut-être, je ne sais pas comment on peut le dire là.
Disons qu'il tient en quatre piliers. Il constitue ce qu'on appelle le tétrapharmakos, le quadruple remède, qui est le slogan épicurien qu'on doit apprendre, ressasser, mémoriser et solliciter dans chaque situation difficile. Donc, la mort n'est rien pour nous. Les dieux ne sont pas à craindre. Le souverain bien, c'est-à-dire le plaisir, est aisé à obtenir. Et ce qu'on pourrait appeler le souverain mal, c'est-à-dire la souffrance, est aisé à supporter. Donc ça, évidemment, ce sont quatre affirmations hautement polémiques et éminemment critiquables. Et on peut considérer que la totalité de la doctrine d'Épicure consiste à justifier les quatre ingrédients de ce quadruple remède et à montrer son efficacité, selon lui, totale.
Alors, partons du premier des quatre piliers. La mort qui n'est rien pour nous, c'est la fameuse lettre à Ménécée d'Épicure. Bon, en général, quand on ne sait rien d'Épicure, on sait ça. Hein. La mort n'est rien pour nous, quand t'es vivant, t'es vivant, quand t'es mort, t'es mort. Si quand tu es vivant, tu penses à quand tu es mort, tu te trompes d'objet, la mort n'est rien pour nous. Les objections, on en a beaucoup parlé de ce texte au chemin, mais les objections qu'on peut formuler à l'endroit d'Épicure sont que Épicure méconnaît la présence de la mort dans la vie. Ce que la vie peut avoir de mortifère, voire également le spectacle de la mort des gens qu'on aime. Autant dire que c'est considéré que s'il suffisait d'être vivant pour n'être pas concerné par la mort, tout irait bien. Est-ce que la prémisse, en l'occurrence, n'est pas contestable ?
Alors là, pour comprendre ce que veut dire Épicure, je crois qu'il faut intégrer ce quadruple remède dans toute une tradition qu'on peut faire remonter, sans doute même bien au-delà, mais commençons, prenons un point de départ, prenons le Phédon de Platon. Philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est-à-dire philosopher, ça va être apprivoiser cette idée de la mort, en faire quelque chose de philosophique, en faire quelque chose d'intéressant qui tire l'homme vers le haut, au lieu de l'enfoncer dans la brutalité de sa condition. Et Épicure s'inscrit à rebours de cette tradition, il ne s'agit pas, quand on est philosophe, de ne s'intéresser qu'à la mort, parce que la mort n'est pas un objet philosophique pour Épicure. La mort, c'est le destin de tout être vivant. Nous sommes tous des agrégats atomiques, donc nous sommes tous voués à une pulvérisation, et on ne peut rien faire contre cela. On l'accepte, et on considère que cette pulvérisation ne concerne pas l'individu que nous sommes. Ce n'est pas à nous que la mort arrive. Donc dire que la mort n'est rien pour nous, c'est dire qu'elle ne va pas affecter ni notre identité, ni notre substance, ni notre raison d'être. La mort est un accident qui n'arrive à personne.
Rappelons juste pour mémoire que l'argument du Phédon de Platon, selon lequel donc philosopher c'est apprendre à mourir, repose sur le fait que l'exercice, la pratique de la philosophie selon Platon et Socrate, enfin le Socrate de Platon, c'est de constamment détacher l'esprit des contingences corporelles. La philosophie nous entraîne à détacher l'esprit du corps et donc en ce sens, la mort parachève le mouvement qu'a entamé la philosophie en achevant précisément donc de détacher l'esprit du corps ou l'âme du corps. Propos qui n'est en rien épicurien, c'est-à-dire Épicure prend deux fois le contre-pied de cela. D'abord parce que pour lui, philosopher, ça n'est pas apprendre à mourir, et également parce que l'idée d'une âme qui survivrait à la dissolution d'un corps n'a pas de sens.
Même on peut aller plus loin. Pour Épicure, la distinction de l'âme et du corps n'a pas de sens. L'âme, c'est un corps au sein du corps. L'âme, c'est un composé atomique qui est répandu dans ma constitution corporelle. Donc déjà, cette idée-là de détacher en quelque sorte l'esprit ou l'âme du corps est contraire à la physique épicurienne. Si on revient sur le petit texte qui a été lu tout à l'heure, ce récit hagiographique de la mort d'Épicure, on voit que justement, on est dans une
problématique... La lettre à Idoménée, hein, c'est le premier texte qu'on a entendu. Oui,
on est dans une problématique totalement inverse. Épicure ici, on nous dit au seuil de sa vie, il est soumis à des souffrances abominables, il est mort de ce qu'on appelle la maladie de la pierre, quelque chose d'extrêmement douloureux, et justement, il répond en quelque sorte à votre question. La philosophie n'est pas là pour méditer sur la mort. La philosophie est force de vie. C'est-à-dire que c'est le souvenir des conversations philosophiques, le souvenir de la pratique de la philosophie qui maintient l'âme dans un état d'équilibre et de joie et qui parvient à contrebalancer jusqu'aux derniers instants les assauts de la souffrance et l'angoisse de la mort. Donc la philosophie est à la limite, si on pousse les choses dans leur dernier retranchement, là, pour nous faire, non pas pour nous faire oublier que nous allons mourir, mais pour nous faire oublier la mort comme ce destin écrasant qui viendrait tout arrêter.
C'est extrêmement important parce que derrière ça, il y a l'idée de savoir si la philosophie est consolatrice ou si elle est source de savoir. En somme, dans quelle mesure, plus exactement, la philosophie est-elle consolatrice ? Est-elle consolatrice parce qu'elle nous dissimule par le bonheur de son exercice ? Un bonheur qui nous est familier et qu'il faut souhaiter d'ailleurs à tout le monde. Le bonheur de l'exercice philosophique peut être si puissant qu'il nous fait oublier, mais le temps du bonheur, justement, que nous allons mourir, à cet égard, la philosophie serait consolatrice, comme la musique parfois peut l'être, par exemple. Ou bien est-ce que la philosophie parle le savoir qu'elle donne de l'existence, dissipant les illusions, apporte plus encore qu'une consolation, j'ai envie de dire presque une justification de l'existence qui pourtant est appelée à s'achever, à se dissoudre, à se pulvériser, comme vous l'avez dit.
La philosophie est consolatrice, cela ne signifie pas que la philosophie est un divertissement.
Voilà, est-ce que c'est une illusion parce qu'elle est consolatrice ? Est-ce que c'est
une
illusion qui réconforte ? Voilà.
Et même, elle ne pourrait pas être consolatrice si elle était une illusion. Elle n'est consolatrice que parce qu'elle ouvre le regard de l'homme, elle l'éclaire sur la réalité de la nature, sur la réalité de son être. Et c'est simplement en ce sens-là qu'elle est consolatrice. Elle joue un rôle de... je vais utiliser une expression volontairement très triviale, elle joue un petit peu le rôle du déniaiseur. C'est-à-dire que nous sommes naïfs, nous croyons que nous pouvons échapper à notre condition mortelle, nous montons des châteaux en Espagne, nous essayons de conquérir le pouvoir, la richesse, etc. etc. La philosophie nous dessille les yeux. Nous sommes voués à la pulvérisation, nous ne sommes que des atomes dans un bain d'atomes. Donc finalement, la seule chose qui vaille la peine, c'est... de comprendre le mécanisme de la nature et grâce à cette compréhension de vivre serein.
Qu'est-ce qui distingue celui qui enseigne l'atomisme, la composition atomistique ou atomique de toute chose et qui par là même nous fait donc tomber les écailles qui recouvrent notre regard et qui nous font accorder de l'importance à ce qui n'en a pas, etc. etc. Donc quelle est la différence entre celui qui nous ouvre les yeux sur l'âpreté, la neutralité, le silence finalement d'une réalité qui est tout entière faite d'atomes qui s'agrègent avant de se désagréger et celui qui, comme Montaigne, s'inspirant pour le coup des stoïciens, dans le fameux chapitre sur « Que philosopher, c'est apprendre à mourir hein », le chapitre 20 de la première partie des essais, Montaigne qui dit « Ayons la mort présente partout, ayons-la constamment sous les yeux ». Quelle différence y a-t-il entre Épicure qui dit « La mort n'est rien pour nous, mais enfin, sachez quand même que tout est périssable » et celui qui dit « Ayons constamment la mort sous les yeux, c'est la meilleure façon de vivre ».
Cela dépend de ce qu'on appelle avoir la mort sous les yeux. Avoir la mort sous les yeux, c'est-à-dire avoir sous les yeux le spectacle de la nature qui va vers une fin, où tout étant va vers une fin, ce n'est pas avoir sa propre mort sous les yeux. Encore une fois, la mort est un accident qui n'arrive à personne. Donc, je peux très bien éprouver un grand plaisir à savoir que la Terre elle-même est un agrégat atomique, la Terre elle-même est subie au choc incessant des atomes, et donc la Terre elle-même un jour va se désagréger et rejoindre la soupe originelle,
nous voilà rassurés.
Sans me sentir moi-même concernée par l'idée de mort, dans la mesure où la mort ne m'arrivera pas à moi. La mort, c'est simplement le devenir naturel de mon agrégat.
N'ayons rien aussi souvent dans la tête que la mort. À tous instants, représentons-la à notre imagination et avec tous ses visages. Au faux pas d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, ressassons soudain, eh bien, quand ce serait la mort elle-même. Et là-dessus, raidissons-nous et faisons effort sur nous-mêmes. Au milieu des fêtes et de la joie, ayons toujours le refrain que constitue le souvenir de notre condition. Et ne nous laissons pas emporter si fort vers le plaisir sans que repassent parfois en notre mémoire les multiples façons dont notre allégresse est en butte à la mort et les multiples prises dont celle-ci la menace. Ainsi faisaient les Égyptiens qui, au milieu de leurs festins et parmi les meilleurs plats, faisaient apporter le squelette d'un homme mort pour servir d'avertissement aux convives.
Tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois ?
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non, mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Alors ? Alors ?
Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle...
Julie Giovacchini, dans le chapitre 20 de la première partie des essais, Montaigne donc a la mort partout sous les yeux, où qu'il aille, il la voit. Et il recommande d'ailleurs à l'individu de voir la mort en permanence, d'être constamment attentif au spectacle de la mort. Pour peu qu'on regarde un peu le monde, on y voit la mort tout le temps. Cette démarche n'est pas épicurienne, dans la mesure où pour Épicure, la mort n'est rien pour nous. Mais en même temps, c'est le même homme qui, un peu plus loin, fondant, jumelant avec génie toutes les philosophies et tous les héritages du monde, explique